Voilà. Merci à vous pour votre accueil. On va ouvrir la parole de Dieu, c'est ce qui nous intéresse ce matin, et nous allons lui donner toute la priorité. J'aimerais lire avec vous le psaume 73. Le psaume 73, vous avez du temps, donc on va le lire en entier, hein, parce que ce que je veux partager avec vous concerne tout le psaume, hein, finalement. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Et puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Hein, gloire à Dieu. Alléluia. Les psaumes sont des parties, des morceaux de la parole de Dieu particulièrement intéressants. Souvent les personnes, lorsqu'elles découvrent la Bible, eh bien, on les invite à lire l'Évangile, etc. Et puis on leur dit, lisez aussi les psaumes. Lisez aussi les psaumes. Pourquoi? Parce que dans ces psaumes, c'est comme si les psalmistes nous parlaient à cœur ouvert. Ils ouvrent la porte de leur âme, de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui explique aussi l'intérêt des psaumes pour le réconfort de notre âme. On a besoin d'être réconforté dans notre vie, amen, pour pouvoir louer le Seigneur, amen. Il y a toujours des raisons de louer le Seigneur, alléluia. Hein. Une petite anecdote, une petite histoire que j'ai lue, c'était un pasteur, il y a assez longtemps, un pasteur écossais. Tous les matins, quand il commençait son culte, il trouvait toujours une raison de louer le Seigneur. Et puis un dimanche matin, catastrophe, il avait neigé, il y avait une tempête de neige dans la nuit, il faisait froid dans la salle de réunion, il n'y avait que quelques personnes qui étaient là, et un frère ancien qui dit à un autre, alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il va trouver quelque chose pour rendre grâce au Seigneur. Et il s'est levé, le pasteur, et il a dit, eh bien, je rends grâce au Seigneur de ce que c'est pas tous les dimanches comme ça. Hein, voilà. Alors, il y a toujours une raison de rendre grâce. Je crois que c'est un état de cœur et un état d'esprit, hein, dans lequel, eh bien, on veut être. Mais c'est vrai que, dans ces psaumes, eh bien, qui sont des prières, qui sont des chants, qui sont parfois l'expression d'émotions, parce que on a aussi des émotions, des ressentis, nous avons là des trésors, hein, des trésors inestimables. Dans ce psaume 73, le psalmiste nous livre cette expérience, le bilan finalement d'une expérience intime et spirituelle où il va partager avec nous ce qu'il a appris. Il a fait une expérience intime, hein, on fait des expériences avec Dieu et on les fait dans notre cœur, dans notre intimité, face à ce que nous sommes. Et ce matin, j'ai voulu intituler ce partage avec vous « Comment nos états d'âme et nos jugements hâtifs peuvent parfois triompher de notre foi ?» Comment nos états d'âme peuvent parfois triompher de notre foi et comment se sortir de ce piège, Alors, on va voir un petit peu cela et puis faire un petit cheminement dans ce texte. Ça commence bien, le psaume commence bien. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Cet homme, il fait une belle confession de foi, on dirait. Il confesse que Dieu est bon. Vous croyez que Dieu est bon ? Amen. Hein ? Que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur et qu'effectivement, il y a un avantage à être justifié par le Seigneur, à mener une vie droite, une vie pure pour la gloire de Dieu. On a là, dans ce verset premier, l'expression d'une connaissance, je vais dire théorique sur Dieu, vous allez comprendre après. La doctrine est vraie, mais il n'a pas encore complètement était jusqu'au bout de l'expérimentation. Vous savez, des fois, on connaît des réalités, il y a des vérités bibliques que l'on a apprises, et ces réalités bibliques, ces doctrines bibliques qu'il nous faut connaître, qu'il nous faut savoir, eh bien, un jour ou l'autre, elles seront confrontées au quotidien, à notre quotidien, à notre vie quotidienne. Et un jour ou l'autre, nos affirmations spirituelles seront un jour ou l'autre confrontées à la réalité. Vous savez, il est parfois facile d'appliquer certaines vérités spirituelles aux autres et parfois plus difficile à soi-même. Si ça ne vous est pas encore arrivé, je pense que ça peut vous arriver. Hein, ça peut vous arriver. Il y a parfois des gens qui ont de bons conseils pour les autres et qui disent « Frère, il faudrait que tu fasses comme cela. Ma sœur, il faudrait que tu fasses comme cela. N'oublie pas que Dieu est tout-puissant, etc. etc. » C'est bien, et il faut s'exhorter, et c'est une bonne chose, et il faut le faire, et je crois que c'est bien. Mais parfois, il nous arrive nous-mêmes d'être dans cette expérience où, entre le verset 2 et le verset 15 de ce psaume 73, eh bien, tout d'un coup, on voit un homme qui confesse sa foi au début, qui bascule. Ça bascule. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, peut-être que vous ne l'avez pas dit. Peut-être que vous l'avez même caché, peut-être qu'il y a eu des semaines, des mois, durant lesquels ce basculement s'est fait dans votre tête, dans votre cœur. Des fois, ça ne dure pas longtemps, ça dure une journée, mais des fois, ça peut durer plus longtemps. Et on va essayer de découvrir un peu ce basculement. Et ce basculement, eh bien, vient du fait qu'il va voir ce qu'il a devant les yeux, va venir étourdir sa foi. Il croit en Dieu, en un Dieu tout-puissant. Il croit en un Dieu qui est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et il va dire, eh bien, en voyant le bonheur des méchants. Il voit, il regarde avec ses yeux, et ce qu'il a devant les yeux vient contredire, j'allais dire, une partie de la formulation de la doctrine qui s'est faite dans sa tête. On va expliquer cela. Il est prêt à tout lâcher. Il s'interroge sur la prospérité des hommes sans Dieu. Est-ce que ceux qui sont sans Dieu dans ce monde, parfois, ne prospèrent pas ? Si, il peut avoir une certaine prospérité. Une certaine prospérité. Ceux qui vivent en dehors de la crainte de Dieu peuvent avoir à leurs yeux un certain succès. Il y a des gens qui sont des impies parfaits et dans leurs affaires, dans leur business, ça marche à peu près bien. Hein ? Ça peut marcher même assez longtemps. De ceux qui vivent en dehors de la foi en Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Et cet homme, il ne comprend pas. Parce que pour lui, dans sa doctrine, être béni de Dieu, c'est être dans une prospérité absolue. Il est déjà quelqu'un qui croit dans l'évangile de la prospérité. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ces doctrines qui d'ailleurs sont ravageuses. Parce qu'elles ne sont pas dans la parole de Dieu. Et qu'elles conduisent à beaucoup de frustration. A beaucoup de frustration. Mais justement, ce psaume est très utile dans ce sens-là. Parce qu'il voit qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui prospèrent. Alors c'est contraire. C'est vrai que les Juifs, dans l'Ancien Testament, avaient un peu cette notion. C'est-à-dire que si nous sommes bénis de Dieu, alors la vigne, le figuier va prospérer, alors on va avoir plein d'enfants, alors tout va aller bien, quoi, le business, tout va bien marcher. Hein. Ils avaient un petit peu parfois cela. Il a fallu que le Seigneur y rectifie, et d'ailleurs Jésus est venu, il a dit « heureux les pauvres ». Alors là, c'était un peu contrariant pour les gens de l'époque, quoi. Hein, mais il voulait amener à une autre compréhension, une compréhension spirituelle de la vie, qui nous entraîne plus haut et plus loin, même si Dieu n'a rien, eh bien, contre la prospérité. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas là forcément le signe de sa bénédiction. Et on va essayer de comprendre ça. Qu'est-ce qu'on voit dans ce basculement? Parce que c'est intéressant de voir que le processus dans lequel tombe cet homme peut aussi être le nôtre. Il va faire une description disproportionnée de la situation des impies, des méchants. Il va dire « tout leur réussit, rien ne les tourmente, ils sont toujours heureux ». Alors ça, je crois que ce n'est pas vrai, hein, moi. Hein, je ne pense pas que ceux qui sont sans Dieu, tout leur réussit, rien ne les tourmente et qu'ils soient toujours heureux. Et finalement, il y a là des mots qui sont les symptômes de son âme. Le mot « rien », le mot « tout », le mot « aucun » et le mot « toujours » sont des mots absolus qui en fait ne sont jamais vrais, parce qu'on n'est jamais rien, on n'est jamais tout ceci ou tout cela, et on n'est jamais toujours, hein, d'une façon ou toujours d'une autre. C'est des mots qui expriment en fait le malaise de son âme. Et parfois, il peut nous arriver, nous aussi, de tomber dans des malaises de l'âme. Dans ces états d'âme qui font que, oui, c'est toujours pareil, c'est toujours à moi que ça arrive. Hein, y a rien qui me réussit, rien ne me va. Vous avez jamais entendu ces mots? Hein, ou alors le pire, c'est quand on dit aux enfants, toi, de toute façon, tu feras jamais rien de bon. Hein, c'est des mots qui classent, qui enterrent, hein, qui détruisent, et nous le savons parce que le Seigneur ne tient jamais ce langage. Dans le Seigneur, il y a toujours de l'espérance. Même l'homme le plus désespérant pour nous sur cette terre, le Seigneur, vous savez, honnêtement, le Seigneur, il a beaucoup de foi. Enfin, vous le savez. Parce que quand il nous voit, il a de l'espérance. Nous, des fois, quand on se voit, on dit, mon pauvre, t'es un cas désespéré. J'exagère, hein, j'exagère, mais enfin... Ou quand on voit telle ou telle personne, telle ou telle situation, on dit là c'est perdu, c'est fini, c'est désespéré, c'est pas vrai? Eh bien le Seigneur ne dit jamais ça. Et même quand il juge, et même quand il, j'allais dire, serre la vis, c'est toujours pour sauver. Vous voyez, quand il met Jonas dans le ventre du poisson, c'est pour le mettre un peu au shaker, hein, pour le secouer un peu, pour qu'ensuite, eh bien, Jonas, tu réfléchis. Et du fond de l'abîme, du fond du ventre du poisson, Jonas va invoquer le Seigneur. Hein, comme dans tout, même dans tout jugement de Dieu, il y a toujours la porte du salut qui est ouverte au bout, si on veut prendre le chemin et si on veut y aller. Il n'y a personne pour qui le Seigneur dit, eh bien, ça y est, c'est terminé à plus jamais. Hein, et je crois que dans tous les cas, eh bien, le Seigneur laisse cette porte ouverte, à moins que dans notre endurcissement, nous nous soyons mis nous-mêmes, ce n'est pas Dieu qui nous y a mis, dans une situation telle que les choses sont inévitables. Alors, autre chose que cet homme relève, verset 10, c'est la popularité de la vie des méchants. Hein, la popularité de la vie des méchants. Parfois, on cherche à faire du bien, on cherche à être... Vous savez, quand on est croyant, on n'est pas toujours populaire. Et encore, chez nous, ça va. Hein. Bon, peut-être que notre voisin nous fait des mauvaises réflexions, ou notre belle-mère, ou la belle... Enfin, pas forcément la belle-mère, mais enfin, ou les enfants, ou tout ça, parce qu'on est chrétien et qu'eux ne le sont pas. De temps en temps, il y a des gens qui disent « Oh, je suis persécuté chez moi ». Non, je suis peut-être un peu contrarié. Mais enfin, la persécution, c'est quand même autre chose. Hein. Je lisais cette semaine le témoignage d'une sœur en Érythrée qui a été enfermée pendant des mois dans un conteneur en plein soleil avec une malade mentale qui était aussi enfermée avec elle. C'est autre chose, hein, comme vécu, et pourtant elle a gardé sa foi dans le Seigneur. Hein. Bon, on va pas. C'est vrai que ce qui nous arrive, parfois on a l'impression que c'est plus fort que les autres, parce que ça nous arrive à nous. Hein. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on soit en situation de persécution, de contrariété, qu'on ne nous comprenne pas, qu'on nous rejette, ça c'est évident. Et de toute façon, eh bien, je crois que c'est aussi la marque du fait que ben, on n'est pas de ce monde et qu'on appartient au Seigneur. Donc, gloire au Seigneur. Bon, il ne s'agit pas d'être, comment dire, d'être mal vu parce qu'on est des malfaiteurs, hein, parce qu'on fait du tort à son voisinage. nuançons le propos. Alors, cet homme, il voit la popularité. Et lui, il est oublié. Qu'est-ce qui arrive dans son basculement? Eh bien, tout son raisonnement, tout son malaise intérieur va produire en lui un découragement. Au verset 13, cet homme est dans le découragement. « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Etc., etc. On sent cet homme découragé. Et découragé au point de dire « ça ne sert à rien ». Au point de remettre en cause sa vie, de remettre en cause sa piété, sa droiture, son intégrité. C'est terrible. De remettre en cause sa relation, sa vie avec Dieu, sa piété. Parce que on s'est laissé étourdir par ce que nos yeux ont vu, par ce que nos oreilles ont entendu, par ce qui s'est passé autour de nous, qui a pénétré notre âme, nous l'avons laissé pénétrer. Et nous nous sommes découragés. Ça ne sert à rien. Il remet en cause sa vie avec Dieu finalement, sa relation avec Dieu. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé. Mais je sais qu'il y a des gens à qui ça arrive. Ben alors, ça sert à quoi de servir le Seigneur? Ça sert à quoi de marcher avec le Seigneur? Hein? Bon, peut-être que vous ne l'avez pas dit. Et comme maintenant, la parole de Dieu vous a mis en garde, donc la prochaine fois que ça arrivera, vous direz, ah, là, le signal rouge s'est allumé. Hein? Et je ne veux pas remettre en cause. Mais pourtant, cet homme, il l'a fait. C'est pourtant un homme extraordinaire. Il est dit au début, psaume d'Asaph. C'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Hein, quelqu'un qui nous livre des psaumes et des expériences spirituelles extraordinaires, une connaissance de Dieu formidable. Eh bien, il est là et il va dire chaque jour, tous les matins, je m'en sors pas, il est dans le découragement. Et il va même avouer au verset 13, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ses états d'âme, ses émotions, son ressenti personnel est tel qu'il est embarqué dans une tempête intérieure. Il est embarqué au fond de son âme. Et quand il veut réfléchir et dire stop, arrête-toi, pose-toi, il ne peut plus. Il est embarqué. Son état d'âme vient brouiller sa foi et son intelligence. Sa réflexion, qui devrait être une réflexion saine. Et au début, c'est sain et c'est beau et c'est juste ce qu'il dit. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais là, il est tellement embrouillé qu'il n'arrive plus à s'arrêter à réfléchir. Ça s'est emballé. Ça s'est emballé dans son cœur, ça s'est emballé dans sa tête. Et pour avoir parfois rencontré des chrétiens, reçu certains, justement, je me suis aperçu que parfois certains vivent cela. Certains ont vécu cela. Certains l'ont vécu et puis ils s'en sont sortis et on ne l'a pas su. Mais certains, parfois, ils n'arrivent plus à réfléchir sainement. Spirituellement, on leur met la parole devant les yeux, ils ne captent pas. Leur réflexion, leur intelligence spirituelle est comme aveuglée, parce qu'à l'intérieur, les émotions s'agitent. Et vous savez, on est aujourd'hui dans un monde où on joue sans arrêt sur l'émotivité, sur l'émotion. Et je dis parfois, la Bible nous dit « mon juste vivra par la foi » et non pas « mon juste vivra par ses émotions ». Il y a des gens qui disent « mais je ressens ceci, je ressens cela ». Alors, il y a ce que le Saint-Esprit peut nous faire ressentir et vivre, mais parfois, ce sont nos émotions. Et parfois, nous privilégions nos émotions par rapport à la foi. Et le juste, il ne vit pas par ses émotions, même si on a des émotions, on est des êtres conçu comme cela. Mais quand ce sont nos émotions qui nous guident, à ce moment-là, elles peuvent nous entraîner vers une vie charnelle. Vers une vie charnelle. Ah là, je le sens bien, hein, ou je le sens pas. Hein, vous n'avez pas entendu ces expressions, elles sont très courantes aujourd'hui. Je sens bien, je me sens bien, je me sens pas bien, etc., etc. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Notre texte dit, par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Et je crois que bien sûr, il y a des émotions, mais si ce sont elles qui guident notre vie, alors le Saint-Esprit ne pourra pas guider notre vie, parce que le Saint-Esprit guide notre vie au travers de la foi, au travers de la confiance, au travers de l'appui que l'on place sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, et non pas sur ce qu'on voit. Vous savez, ce qui affecte beaucoup nos émotions, ce sont nos sens. J'ai vu ça, oui, mais si vous savez ce que j'ai vu, si vous savez ce que j'ai entendu, Eh oui, mais c'est pas ce qu'on voit et ce qu'on entend qui est important. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, je ne l'ai pas vu, mais il est le plus important. Dieu, je ne l'ai pas vu, mais il vivra quand tout sera mort. Quand le monde sera détruit, il se lèvera. Il sera là encore présent et moi, je serai présent aussi avec lui parce qu'il m'a fait cette promesse. Alléluia. Hein, gloire à Dieu. Alors, cet homme, il a eu aussi cette difficulté, sa réflexion est paralysée. Alors, vous allez dire, bon... Ah ben c'est pas reluisant, hein, cette expérience là, c'est édifiant. Si, c'est édifiant parce que cet homme, il en est sorti. Amen. Et même si on est dans cette situation, même si ce matin, quelqu'un au milieu de nous est dans cette situation et peut-être au comble de tout cela, on va pas passer le temps, on aurait pu détailler, approfondir chaque élément. Eh bien, qu'il sache une chose, c'est que il y a une sortie. Il y a une sortie. C'est ce qui m'enthousiasme dans l'Évangile. C'est qu'il y a toujours une bonne nouvelle. Ça se termine toujours par une bonne nouvelle. C'est vrai que dans la Bible, vous avez des situations terribles. Vous avez des situations de guerre, des situations de haine, des situations d'inceste, des gens qui sont dans des maladies pas possibles, des gens qui sont méprisés. Vous avez des choses terribles dans la Bible. Hein ? Bon, c'est vrai que maintenant, les gens, ils sont tellement habitués à beaucoup de choses que ça paraît plus trop terrible à certains. Mais enfin, vous avez toutes la panoplie des situations que les hommes peuvent vivre sans rien cacher. Sans rien cacher. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a la petite porte là-bas. La porte du bout, la porte de la bonne nouvelle, la porte de Jésus-Christ qui est au bout de toute chose et qui est là aussi pour nous aujourd'hui, les hommes et les femmes du 21e siècle, hein, faut pas se tromper, hein, et qui sommes là, qui vivons aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ce que je retrouve dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, et même déjà dans ce psaume. Si le psalmiste nous livre cette expérience, c'est qu'il en est sorti vainqueur. S'il n'était pas sorti vainqueur de cette expérience, qu'il s'était laissé entraîner, et on va voir quels sont les moyens, les dispositions dans lesquelles il s'est placé pour sortir de cela, eh bien, s'il n'en était pas sorti, il ne nous aurait jamais donné le psaume 73. On ne l'aurait pas dans la Bible. Mais il s'en est sorti. Amen. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour moi-même, hein, pour tous ceux qui sont autour de moi, et pour vous aussi. Qui que vous soyez ce matin, c'est qu'il en est sorti vainqueur. Au verset 17, hein, il y a eu comme un basculement. Et puis au verset 17, il va dire, « La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pénétrer les sanctuaires de Dieu. Cet homme a compris qu'il fallait qu'il se sorte de l'apparence, qu'il ne fallait pas se contenter du superficiel. Le sanctuaire de Dieu, ce n'est pas les murs d'un local, ce n'est pas cela, mais c'est rentrer dans cette présence de Dieu. Ce qui fait la valeur du sanctuaire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu. Hein. Vous connaissez ce passage d'Ésaïe où les pans de la robe de Dieu remplissent le temple tout entier. Et le sanctuaire de Dieu, c'est là où il habite, c'est là où est la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pénétrer dans la présence de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire de pénétrer dans la présence de Dieu. Alors on peut venir ce matin ici dans ce lieu sans pénétrer dans la présence de Dieu. Mais je suis sûr que beaucoup sont venus en pénétrant dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais on peut aussi le faire chez soi, dans ces moments intimes avec le Seigneur. Soit dire, bon, le pasteur a dit qu'il fallait lire un chapitre par jour. Bon, je cherche. Ah non, pas le psaume 119, c'est un peu long. Je vais le prendre le 117, ça sera plus rapide. Ah, voilà. Ça ira plus vite. Non, mais pénétrer les sanctuaires de Dieu, c'est rentrer dans cette profondeur. Ne pas se contenter de ce que l'œil voit, de ce que l'oreille entend, ne pas se contenter du superficiel. Il va aussi laisser de côté le monologue avec lui-même. Des fois, on est dans un monologue avec nous-mêmes, on se parle à soi-même. Et quand on se parle à soi-même et qu'on a oublié que le Seigneur veut nous parler, eh bien, ça ne va pas aller très loin. Et parfois, malheureusement, certains ont fait de la prière un monologue. C'est-à-dire, il parle à Dieu, il parle. Le Seigneur voudrait dire, stop, arrête-toi là, stop. Laisse-moi un peu de temps pour te parler. Mais des fois, ils ont peut-être peur de ce que le Seigneur va leur dire. Alors, ils ne laissent pas la parole au Seigneur. Vous savez, quand on ne veut pas que quelqu'un... Oups, j'enverse tout. Que quelqu'un nous parle d'une chose, on sait qu'il va soulever tel problème. On parle. Hein? C'est comme les enfants. Les enfants, quand ils savent qu'il y a... Bon, là, va falloir s'expliquer un peu sur la mauvaise note ou sur telle remontrance dans le carnet de liaison. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent et puis ils vous racontent leur journée, puis leurs copains et tout ça. Et puis vous sentez que, voilà, ils vous embarquent, hein, dans leur discussion, tout ça, pour essayer de vous amadouer, pour essayer de... Et puis ils sont dans le monologue. Cet homme, il était dans le monologue jusqu'à maintenant. Vous voyez, il nous livre ses réflexions, il essaye de réfléchir. Puis il y a son cœur, il y a ses états d'âme, il y a son découragement, il y a tout ça qui le brouille et il ne sait plus s'en sortir. Et là, il va rechercher la présence de Dieu. Parce qu'il sait que là, dans la présence de Dieu, il y a la personne de Dieu. Il y a les fondements de la vie avec Dieu. Il veut aller au fond des choses, dirigé par le Saint-Esprit. Et il va dire... Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. On ne va pas développer tout cela ce matin, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur la présence de Dieu, sur pénétrer la présence de Dieu, sur se laisser... Parce que pénétrer la présence de Dieu, c'est soi-même être transformé. C'est soi-même être touché, rempli du Saint-Esprit. C'est soi-même être renouvelé. C'est soi-même revenir à une écoute de la parole de Dieu qui devient utile, qui nous pénètre. Qui glisse pas simplement dessus en disant ben voilà je suis venu au culte ce matin bon je me secoue un petit peu en sortant ça y est ça va tomber et puis hein. Non mais qui retient cette parole qui l'absorbe qui sent l'odeur de la présence de Dieu hein, la bonne odeur de Jésus-Christ quand on pénètre il y a des lieux où quand vous pénétrez dedans bon autrefois dans les bars quand vous pénétriez dans un bar quand vous ressortiez une femme me disait où c'est que t'as été toi hein parce que l'odeur du tabac aujourd'hui il y a plus le tabac mais il paraît qu'il y a d'autres odeurs qui sont pas plus agréables hein voilà enfin je fréquente pas ces lieux-là mais enfin bon voilà donc quand on va dans la présence de Dieu on en ressort avec sur nous une trace avec sur nous une odeur avec sur notre langue une autre façon de parler avec un autre état d'esprit avec une autre démarche, avec un autre comportement, parce qu'on a été dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, et que le découragement a fondu comme neige au soleil, et que la force de Dieu a repris sa vigueur, que le Saint-Esprit a repris son autorité sur nos émotions elles-mêmes. Alors, au verset 21, cet homme reconnaît le piège de l'amertume. Vous savez, l'amertume est un piège terrible, Lorsque mon cœur s'est grissé, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Et cet homme, eh bien, reconnaît le piège de l'amertume. Hein. J'étais stupide, je suis tombé dans un piège. Vous savez, on peut toujours essayer de justifier la rancœur et l'amertume par toutes sortes de moyens. Il y a des gens qui disent « oui, mais on ne m'a pas fait justice, j'étais victime d'injustice ». Eh bien oui, mais qui ne l'a pas été sur cette terre? C'est vrai que des fois, il y en a certaines qui nous ont fait plus mal que d'autres, c'est vrai. Mais il y a un moment, il faut lâcher les choses entre les mains du Seigneur. Renoncer à la colère. Parce que sinon, elle nous tuera. L'amertume, elle ne tue pas les autres. Bien qu'elle nuise à nos relations, elle nous tue d'abord à nous-mêmes. C'est un poison à l'intérieur du cœur et du corps et de la vie de celui qui y reste et qui y demeure. Et on n'en sort pas en se battant avec ses petits poings contre l'amertume, on en sort en la déposant aux pieds du Seigneur. Amen. C'est pas simple. Je dis pas que c'est simple. Je dis que c'est possible. Amen. Par la grâce de Dieu, l'amertume et la colère, hein, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que quand la colère, elle demeure, elle crée en nous cette amertume. C'est de la colère macérée. Hein, vous savez que comme quand le mou macère et le vin, le vieux vin, le mauvais vin, parce que le bon vin, c'est autre chose. Mais quand le mauvais vin macère, il devient du aigre, ça devient du vinaigre. Ça sert bien pour mettre dans la salade, mais il faut quelques gouttes. Hein. Faut pas trop quand même, hein, parce que sinon, vous allez avoir l'estomac troué. Hein. Donc, l'amertume, c'est pareil. Elle nous troue le cœur, elle nous troue l'âme. Et il reconnaît cela. Cet homme, au regard de ce qu'il a vu, il est tombé dans le piège de l'amertume. Même contre Dieu, on peut être dans l'amertume. Des gens qui sont révoltés contre Dieu, des chrétiens, des croyants qui ont de l'amertume contre Dieu. Ouais, mais j'attendais ça du Seigneur, il ne l'a pas fait. Quel piège. Et là, quand il pénètre dans les sanctuaires de Dieu, il dit, mais que j'étais stupide de me mettre dans cette affaire-là. Quand il n'y était pas, il disait, oui, j'ai raison, et les autres ont tort. Et puis, Bon, ça ne nous est jamais arrivé, mais si ça vous arrive un jour, si vous voyez ce piège pointer son nez, dites « Seigneur, je veux être dans tes sanctuaires, je veux venir à tes pieds pour recevoir ton conseil, pour recevoir ta direction, pour recevoir l'action de ton Saint-Esprit sur moi, afin de ne pas tomber et demeurer dans ce piège. » Les leçons que cet homme va retenir en pénétrant la présence de Dieu. Vous savez, quand on vient auprès de Dieu, qu'on écoute sa parole, qu'on laisse le Saint-Esprit venir en nous, qu'on est là dans la prière, dans cette communion avec Dieu, et pas simplement dans un monologue avec Dieu, mais une véritable communion qui a ce sanctuaire, cette présence de Dieu. On reconsidère à ce moment-là les choses dans leur juste valeur, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu en même temps, sa miséricorde. On reconsidère toutes choses et on retient des leçons. Cet homme va retenir un regard distancié sur lui-même, hein, un regard distancié sur lui-même. Vous savez, on a parfois besoin, on a souvent besoin du regard de Dieu et de se laisser pénétrer par le regard, la parole de Dieu, les conseils de Dieu, qui parfois vont venir au travers des conseils spirituels qu'on peut recevoir de la part des autres, au travers d'une prédication, qui peut venir aussi au travers d'un entretien que l'on a avec un chrétien affermi, hein, avec quelqu'un qui nous aide dans la foi, au travers de la lecture de la parole de Dieu. Le Seigneur a tellement de moyens pour nous apprendre, pour nous parler, et il voudrait que nous ayons cela. Et puis au verset 23, cet homme, il revient à ce que j'appelle le bon sens spirituel. Et ça, c'est formidable. On a ici, un passage extraordinaire. Hein. Il va dire, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Vous imaginez, il reconnaît cela. Pas facile de reconnaître que des fois on a été bête. Hein. Le mot le dit d'ailleurs, hein, que des fois, Seigneur, là j'ai été bête. Hein. J'ai été bête à ton égard, Seigneur. J'étais stupide, j'étais sans intelligence, Seigneur. Et, bon, déjà si on arrive à le dire devant le Seigneur, bon, devant les hommes c'est peut-être autre chose. Hein, mais enfin, déjà si on le dit devant le Seigneur, ça sera un grand pas. Ça sera un grand pas parce que on va s'approcher du Seigneur avec le genou baissé à ce moment-là. Et quand le genou est baissé, le cœur est ouvert. Et le Seigneur peut bénir et peut remplir. Et il va dire, cependant. Vous voyez, ce cependant, il fait écho pour moi au jusqu'à ce que. Il bascule. Et maintenant, cet homme, il sort. La grâce de Dieu a agi. Il a pénétré les sanctuaires de Dieu. Il a reconnu sa stupidité. Et il dit, maintenant, il va exprimer sa vie, sa piété, sa foi avec Dieu de manière utile, constructive, de manière édifiante. Cependant, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Oui, mais là, le toujours, il est vrai. Parce que le Seigneur est toujours avec nous. On n'est pas toujours dans le malheur, mais le Seigneur, il est toujours avec nous. Amen. Que ce soit un bon jour ou un mauvais jour, le Seigneur est toujours avec nous. C'est nous, parfois, qui ne sommes pas trop présents et conscients des choses. Ton conseil me conduira. Il s'était laissé conduire par ses émotions, par ses états d'âme. Je me sens bien, je me sens pas bien. Puis lui, il réussit en face alors qu'il craint pas Dieu. Ton conseil me conduira. Et il remet, et il finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a le mot « toi », hein, l'expression « toi ». Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, etc., etc. Il remet Dieu au centre, finalement. C'est tout simple. Il remet Dieu, la parole de Dieu, la personne de Dieu, au centre de sa vie. Il ne met pas ses émotions, ses sentiments, son ressenti au centre de sa vie. Mais il met le Seigneur au centre de sa vie. Alléluia. Et c'est ça, remettre le Seigneur au centre de sa vie. Bien sûr, c'est le mettre au centre de notre emploi du temps. Mais s'il n'est qu'au centre de notre emploi du temps, et qu'il n'est pas au centre de nos valeurs, qu'il n'est pas au centre de nos comportements, de nos actions, de nos déterminations, ça ne sera qu'une partie. Il faut qu'il soit au centre de nos valeurs. D'ailleurs, il y a un chant qui dit « Sois le centre de nos valeurs hein, ». Bon. Et il faut que ça soit vraiment, mais il faut que ça soit dans le cœur. Ça ne peut pas être à l'extérieur en disant « Voilà, Seigneur, simplement, je vais tout faire comme cela, extérieurement ». Non, si, de toute façon, honnêtement, vous ne pourrez pas le mettre au centre de votre emploi du temps s'il n'est pas au centre dans votre cœur, ou ça sera très dur. Vous allez devenir peut-être un religieux, quelqu'un qui va tirer, et puis qui va s'épuiser. Mais quand il est au centre dans notre cœur, et qu'après il est au centre dans notre emploi du temps, dans notre vie, que tout le matin on se dit, Seigneur, voilà, tu es là. Tu es au centre de ma vie. Quand je mange, tu es au centre. Quand je dors, tu es au centre. Quand je pense à toi, tu es au centre de ma vie. Quand je pense pas à toi, enfin, ça ne veut pas dire que je t'ai oublié, hein, mais tu es quand même au centre de ma vie. Quand je prie, tu es au centre de ma vie, etc. Et donc, à partir de là, je crois que la vie, elle tourne bien. Vous savez, une roue, si elle n'est pas centrée comme il faut, et il ne faut pas grand-chose. Si votre pneu, il a un millimètre de décalage sur le centrage, eh bien, vous allez voir le manège que ça va être. Hein. Vous risquez une sortie de route et un grave accident. Mais quand on met le Seigneur au centre, tout tourne bien. Les choses vont s'organiser correctement au niveau de notre vie, au niveau de notre famille, au niveau d'un tas de choses. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, mais la présence du Seigneur va faire que les difficultés, eh bien, le Seigneur va nous aider à les surmonter d'abord en nous-mêmes et puis ensuite en triompher sur le terrain. Retour au bon sens spirituel. Il remet Dieu au centre. Il dit, Dieu sera toujours... Finalement, il n'y a plus rien à dire là. Enfin, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus qu'à s'attacher à ce qui est dit. Hein. Il dit, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Il redécouvre cette intimité de la réalité de Dieu. Dieu n'est pas simplement une idée. Dieu n'est pas simplement une doctrine. Dieu n'est pas simplement une théologie. Dieu est un être vivant avec lequel nous devons avoir une relation intime et nous devons avoir une relation personnelle. Dieu, ce n'est pas simplement une religion que certains ont et d'autres pas, et puis etc. On n'est pas là dans ce domaine-là. On est dans le domaine de la relation personnelle et intime avec Dieu. Dieu l'a voulu. Ce n'est pas les hommes qui ont dit, tiens, si on avait une relation personnelle avec Dieu. C'est au cœur même du plan et du projet de Dieu pour les hommes. Que l'homme n'ait pas une relation religieuse avec lui, rituelle, que sais-je encore, mais que l'homme ait avec lui une relation personnelle. Et cette relation personnelle, nous le savons bien sûr, passe par la personne de Jésus. C'est une personne qui nous met en relation personnelle avec ce Dieu qui veut être pour nous un Dieu personnel. Amen. Qui est aussi le Dieu des autres. Hein. On sait bien que... Mais je place mon refuge dans le Seigneur. Tu seras toujours le rocher de mon cœur. Il redécouvre, verset 26 finalement, quoi qu'il arrive, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Je peux aller au bout de tout, Dieu sera toujours là. Il restera le dernier. Dans ma vie, c'est s'il n'y a plus que lui, il ne restera plus que lui. Si j'ai perdu ma santé, si j'ai perdu ma famille, expérience de Job, il restera le Seigneur. Et ça vaut plus que tout. Vous savez, c'est l'expérience que font ces gens. Je vous parlais tout à l'heure du témoignage brièvement que j'ai lu, une partie en tout cas, de cette sœur qui est persécutée. Vous savez, quand vous êtes dans un container en plein soleil pendant des mois et des mois avec quelqu'un qui a perdu la raison, que vous pouvez pas lire, que tout vous est enlevé. Vous ne savez plus si vous reverrez votre famille, vous ne savez plus si vous reverrez le soleil pour de vrai, vous ne savez plus rien. Et que vous avez Dieu, ben vous avez Dieu. Et ça vous soutient. Et si vous n'avez pas Dieu, alors là, vous êtes perdu. D'ailleurs, même, à moins que ça. Mais, justement, ceux qui ont été au bout de ces expériences extrêmes nous disent, c'est vrai, c'est possible. L'apôtre Paul, qui a lui aussi vécu dans sa vie et dans sa chair des expériences extrêmes, où quand votre vie physique elle-même est menacée au plus haut point, qu'est-ce qui reste? Quand vous n'avez plus rien. Vous savez, nous, on a beaucoup. On se plaint de pas avoir beaucoup, mais enfin, on a beaucoup. On est dans les 4 ou 5% de la planète qui avons le plus. Il y a des gens avec ce que nous, on gagne dans une journée, ils vivent 6 mois, ou voire une année. Mais tout ça, ce n'est pas important. Qu'on ait beaucoup, qu'on ait peu, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que dit ce psaume-là. Hein. Que ma chair et mon cœur se consument. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Que ma chair, tout ce qui fait ma vie physique, matérielle, se consume. Que mon cœur, avec tous ces sentiments, toutes ces impressions, toutes ces émotions, se consume. Le Seigneur est là. Alléluia. Quelle expérience extraordinaire dans laquelle il veut nous entraîner. Alors, il faut se dire... Et finalement, on termine là-dessus. Je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Point. M'approcher de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Mais c'est aussi mon bien. C'est ma richesse. Ni richesse, ni pauvreté, ni santé, ni maladie... je place mon refuge dans le Seigneur. Alléluia. Et quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on va devenir comme des ermites là-haut sur le brou de la montagne, coupés du monde. Non, au contraire. Je crois que plus on est près de Dieu, plus on est près des autres. En se rapprochant de Dieu, on se rapproche aussi des autres. Mais la priorité, c'est de m'approcher de Dieu. Si je me suis bien approché de Dieu, alors je pourrais bien m'approcher des autres. Alors je pourrais être un bon témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je pourrais bien comprendre les autres. Alors je pourrais être là où il faut que je sois, parce que je me suis d'abord approché de Dieu. Et vous savez que Jésus a toujours fait comme ça. Il est d'abord monté sur la montagne, avant d'aller vers les foules. Et que nous aussi, eh bien, nous devons aussi monter sur la montagne. Mais je terminerai en disant que, eh bien oui, parfois nos états d'âme viennent nous jouer des mauvais tours, viennent nous blesser, viennent nous plonger dans l'amertume. Et parfois, on ne voit pas le piège venir. Telle situation, peut-être parce que c'est la première fois qu'on connaissait cette situation, cette difficulté, ce genre de problème. Alors on y va, un pas, un autre, et puis à un moment on est embarqué. Puis à un moment c'est la tempête intérieure dans notre foi, dans notre cœur, on ne sait plus où on en est. Et puis là cet homme il nous dit, mais pénétrez les sanctuaires de Dieu. Venez auprès du Seigneur, là il y a une sortie. Quelle expérience extraordinaire. Alors peut-être que jusqu'à maintenant ces choses, eh bien vous en avez déjà appris une partie. Mais peut-être que pour quelqu'un, ces choses vont lui arriver demain ou la semaine prochaine. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle ne nous sert pas que pour guérir les difficultés présentes. Elle nous sert aussi d'enseignement pour prévenir ce qui va nous arriver plus tard. Et quand on a la parole de Dieu en soi, au moment, il y a des moments où on se dit, tiens, tel verset ou tel passage, bon, j'en ai pas trop l'utilité pour le moment. Hein, bon, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Et puis trois matins après, on se retrouve confronté à des situations, des circonstances, des personnes. Et là, ça prend tout son sens. C'est pour ça que même si aujourd'hui vous dites, bon, moi finalement, même si aujourd'hui je lis pas la Bible pendant toute une semaine, ça va, je m'en tirerai bien. Mais vous oubliez de prendre des réserves pour les temps à venir, pour les difficultés à venir. Et là, c'est dommageable. Et c'est hautement dommageable. Combien de fois dans ma vie, et puis je pense que beaucoup au milieu de nous ont fait l'expérience, au moment précis où une difficulté, ou un problème, ou un sujet, des fois ce n'est pas des problèmes, mais des fois c'est voilà, une question particulière, est apparue, je me suis aperçu que la parole de Dieu, elle remontait à la surface. Le verset qui était nécessaire, hein, il est dit, le Saint-Esprit vous rappellera. Et comme disait un enseignant, eh ben, il disait, le Saint-Esprit peut vous rappeler que les choses que vous avez apprises. Si vous ne savez pas quelque chose, est-ce que vous pouvez vous le rappeler? Vous ne pouvez pas vous le rappeler. Il faut le savoir, et c'est pour ça que la parole de Dieu est extraordinaire. Que le nom du Seigneur soit béni, à lui soit la gloire. On va remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous ne voulons pas aller plus loin, et nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous as faite de nous donner Jésus, de te donner toi-même. De nous dire que tu étais là, Seigneur, et tu nous engages aujourd'hui à vivre non pas par nos émotions, non pas par nos états d'âme, mais à vivre par notre foi. Tu veux nous montrer combien tu es présent, Seigneur, et combien il nous arrive de l'oublier parfois, Seigneur, d'oublier en tout cas en partie cette glorieuse réalité spirituelle. Je te prie ce matin que personne ne reste dans le piège de l'amertume, Seigneur, que personne ce matin ne reste dans le découragement, que personne ce matin, Seigneur, eh bien, ne s'éloigne de toi pour toutes ces raisons, Seigneur, mais qu'au contraire, venant dans ta présence, venant dans tes sanctuaires, ce bien-aimé puisse retrouver la communion avec toi, la joie, que tu puisses à nouveau être le centre de sa vie. Je te remercie et te rends grâce, Seigneur. Amen.